Donc, Épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant, une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts. Elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne finira jamais. Pas même lorsque les prophéties disparaîtront, que les langues cesseront et que la science sera détruite, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande est la charité. Se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les douze et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui. Et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché, ils ne saisirent point ce qui était dit. Car il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria, disant, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tue. Et il criait encore plus, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amena. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il répondit, « Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit, « Voyez, votre foi vous a sauvé. » Et aussitôt il vit, il marchait à sa suite de magnifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, rendit gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors, concernant les retraites, je vous rappelle que vous avez les papiers de retraite à l'entrée dans le petit panier. Pour ceux qui sont intéressés par les retraites, n'attendez pas encore une fois le dernier moment pour vous inscrire. Parce que pour que je puisse m'organiser, je vous rappelle que les retraites de Semaine Sainte et de mois de juin sont pleines. J'ai encore une place quoi pour la retraite, une ou deux places pour les retraites d'avril et de mai, et j'ai de la place pour les dernières retraites septembre et octobre. Aussi, n'oubliez pas que mercredi, c'est le début du carême, le mercredi des cendres, donc le messe sera à 10h. Je distribuerai les cendres aussi dimanche prochain, avant la messe, pour que ceux qui n'ont pas pu assister à la messe mercredi des cendres puissent recevoir les cendres. Donc ce n'est pas une fête d'obligation, pardon, pour ceux qui sont libres, c'est de venir à la messe pour le début du carême, c'est une bonne chose. Donc le jour de, je vous rappelle les règles concernant le jeûne et l'abstinence pour le carême. Donc jeûne, c'est un repas par jour, tolérer une petite chose le matin et le soir. Vous pouvez avoir le repas unique ou à midi ou au soir, comme vous voulez. L'abstinence, sont tenues au jeûne toutes les personnes qui ont entre 21 et 60 ans. L'abstinence, c'est pas de viande. Sont tenus à l'abstinence tous ceux qui ont l'âge de raison, en fait, qui ont plus de 7 ans. Alors, pour le vendredi de carême et le mercredi des cendres, il y a jeûne et abstinence. Et pour tous les jours de carême, sauf le dimanche, il y a jeûne pour tous ceux qui ont l'âge de jeûner. Donc, lancez-vous dans la sainte quarantaine avec beaucoup de générosité. Dieu sait si on a besoin de faire pénitence. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur. faites pas pénitence. Voilà pour moi aussi, nous périrons tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on dit que cet épître d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 13, est la plus belle page de l'Écriture sainte. Et c'est ça de vrai. S'il y a une vertu qui a été mal comprise, qui est mal comprise aujourd'hui, c'est bien cette vertu de charité. On raconte n'importe quoi au niveau de la vertu de charité. Il est évident ici que saint Paul parle de la vertu théologale de charité. La vertu de charité, c'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, consiste pas à aider les pauvres. Ça, c'est la vertu naturelle de charité. Ici, saint Paul parle de la vertu théologale de charité. Qu'est-ce que ça veut dire théologale? Théos en grec, ça veut dire Dieu. Logos, c'est la parole. La vertu théologale, c'est une vertu centrée sur Dieu. C'est une vertu non seulement centrée sur Dieu, mais donnée par Dieu. C'est un don gratuit de Dieu pour nous aider à remplir notre devoir d'État. Donc la vertu de charité, rappelez-vous l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Donc la vertu de charité, c'est deux choses. D'une part, aimer Dieu. D'autre part, aimer le prochain. En aidant le prochain, aimer Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu? Prenons un exemple tout simple. Imaginez un petit garçon de 7 ans. Il s'appelle Jeannot. Et Jeannot, il dit 10 fois par jour à sa maman, « Maman, je vous aime de tout mon cœur. » Très bien. Et puis Jeannot, maman s'aperçoit que tous les matins, discrètement, Jeannot vole dans le portefeuille de sa mère 1 €. S'en aperçoit. Elle reprend Jeannot. Elle lui explique qu'il ne faut pas voler parce que Dieu a dit qu'il ne volera pas. Jeannot continue de dire à sa maman 10 fois par jour, « Maman, je vous aime de tout mon cœur, mais continue de voler tranquillement 1 € tous les matins dans le portefeuille de sa mère. » Qu'est-ce que veut dire la mère? La maman va dire, « Jeannot, tu prétends que tu m'aimes. » Tu mens. Tu m'aimes pas. Parce que si tu aimais ta maman, tu obéirais à ta maman. La première preuve d'amour qu'un enfant doit donner à ses parents, c'est d'obéir à ses parents. Alors les modernes vont dire, oh, la maman doit être pleine de gentillesse, il faut pardonner aux enfants. Tu parles. Il faut pardonner aux enfants à condition que l'enfant change. Donc si l'enfant arrête de voler, la maman doit pardonner. Mais est-ce que la maman doit pardonner si l'enfant n'arrête pas de voler? Bien sûr que non, parce que si la maman pardonne alors que l'enfant continue de voler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maman pousse l'enfant à continuer de voler. C'est du bon sens élémentaire. Donc la maman doit reprendre son enfant, et parce qu'elle aime son enfant, elle va aider son enfant à arrêter de voler. C'est pareil avec le bon Dieu. Quand on dit que j'aime le bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aime le bon Dieu, de même qu'un enfant qui prétend aimer sa mère doit commencer à prouver son amour pour sa mère en obéissant à sa mère, de la même façon, quelqu'un qui prétend aimer le bon Dieu doit prouver son amour pour Dieu tout simplement en obéissant à Dieu. Quelle est la loi du bon Dieu? C'est ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est l'empreinte dans notre nature de la loi éternelle, de la loi des 10 commandements de Dieu. Un des 10 commandements de Dieu, mais voilà pour tous les hommes. Et donc, quelqu'un qui aime Dieu est quelqu'un qui suit la loi des 10 commandements de Dieu. Imaginez quelqu'un qui dit, bon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, qui lui dit 10 fois par jour, et qui tranquillement se moque du bon Dieu en n'obéissant pas à sa loi. C'est quoi ça? C'est l'hypocrisie la plus complète. Et là, il faut faire attention. Parce que les gens mélangent tout volontairement. Et mélangent la loi naturelle et les vertus naturelles et la vertu surnaturelle. Organiser une soupe populaire pour donner à manger à ceux qui meurent de faim pendant l'hiver. C'est quoi? C'est du domaine naturel. C'est une vertu naturelle de charité. Aimer le bon Dieu, et suivre sa loi, c'est la vertu surnaturelle, théologale de charité, c'est pas le même. Alors attention, pas tout mélanger. Les gens estiment que la vertu naturelle de charité, ça correspond à une vertu surnaturelle de charité. La preuve, il suffit de lire le texte. Regardez ce que dit Saint Paul, c'est l'Esprit qui parle. Cette phrase est capitale. Quand les gens vous disent, ah, mais ce que le bon Dieu demande, c'est qu'on a à nourrir tous les pauvres de la part, tous les pauvres de la création, donc il faut encore accueillir chez nous tous les migrants. Regardez ce que dit Saint Paul. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça me sert de rien. Ça veut dire quoi ça? Ça veut bien dire que Saint Paul parle de la vertu théologale de charité. Donnons un exemple. Imaginez un monsieur qui meurt, passe devant Dieu. Il est jugé, comme tout le monde. Et ce monsieur arrive devant Dieu, et Dieu, mon Dieu, j'ai organisé une soupe populaire dans le village. J'ai nourri tous les pauvres du village. Très bien, mon fils, très bien. Vous êtes en état de grâce? Vous êtes mort en état de grâce? Ah, mon Dieu, j'ai aussi organisé des tas de choses pour aider les gens. J'ai créé une école catholique, bien catholique, tout ce qu'il y a de plus de catholique. Et j'ai aidé, j'ai offert à tous ces enfants la gratuité de l'enseignement et tout et tout. Bien. Vous êtes en état de grâce? Ah mon Dieu, j'ai fait aussi des tas de choses pour les personnes âgées dans mon village. Très bien. J'ai une petite question. La femme avec laquelle vous vivez là, elle est à vous? Ah non, je l'ai empruntée à quelqu'un. Ah bon? Vous avez emprunté la femme avec laquelle vous vivez à quelqu'un. Vous avez pensé à rendre cette épouse à son propriétaire légitime? Ah ben non, mais mon Dieu, j'ai fait des tas de choses pour les pauvres. La femme avec laquelle vous vivez, c'est votre épouse légitime? Vous voyez, on passe d'un niveau à l'autre. Aimer les pauvres, aider les pauvres, aider les enfants, tout ça, c'est du domaine naturel. Et Dieu a dit, œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. Tu ne combattras pas la femme de ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bon français, ce brave monsieur qui fait des tas de choses pour les pauvres, il vit tranquillement en concubinage, il vit tranquillement en situation d'adultère. Donc tout ce qu'il fait de bon pour les pauvres, devant Dieu, ça vaut quoi? Rien. Zéro. Absolument zéro. Parce que c'est même presque de l'hypocrisie. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'aider les pauvres. Bien sûr qu'il faut aider les pauvres, bien sûr qu'il faut aider les personnes âgées, qu'il faut aider les malheureux et les miséreux, dans toute la mesure du possible, en gardant le bon sens, bien entendu. Mais n'oublions pas que la vertu théologale de charité, c'est d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est le respect de ses commandements. Prenons un autre exemple. Je m'excuse, je sais que je vais faire crincer certaines dents en donnant ces exemples, je fais exprès de donner des exemples qui s'appliquent à nous. Parfois, on me le reproche. Monsieur, je vais vous donner des exemples qui s'adressent trop directement à nous. Je ne vais pas vous donner des exemples qui s'adressent aux Américains quand je suis en France. Quand je prêchais aux États-Unis, je donnais des exemples qui s'adressaient aux Américains, c'est normal. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est mon travail. Je suis prêtre pour vous aider à aller au ciel. Et moi-même aller au ciel aussi. Prenez un exemple tout simple. Imaginez. Faire attention à l'exemple qu'on donne pour que vous compreniez bien ce que je vous dis. Imaginez, un père parle avec son fils. Son fils lui annonce, voilà, papa, je voulais te dire que depuis 3 ou 4 mois, je bois 3 bouteilles de whisky par jour. Parce que j'ai décidé, je suis un poivreau fini, je suis un alcoolique, c'est la nature, il faut me respecter tel que je suis. Imaginez que le papa dise, mon cher petit, je respecte ta volonté. Je trouve personnellement que 3 bouteilles de whisky tous les matins, ça fait quand même un peu beaucoup. Cependant, je t'aime tel que tu es. Continue de boire tranquillement tes 3 bouteilles de whisky. Est-ce que ce père aime son fils? Non, il n'aime pas le fiston. Il enfonce sa tête dans l'eau pour qu'il se noie encore un peu plus vite. Maintenant, changeons un peu le sujet pour prendre des sujets un peu plus brûlants. Imaginez un fils qui dit à son papa, voilà papa, je voulais te dire que tu comprends, je ne suis pas très attiré naturellement par les femmes, alors je suis un petit peu attiré par les hommes. Et j'ai décidé de me mettre en ménage avec un monsieur. Il faut que tu respectes ma nature. Imaginez que le papa dise, écoute, ça ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, tu es libre, tu fais ce que tu veux, voyons. Si le papa répond ça, est-ce qu'il aide le fiston? Au contraire, il enfonce le fiston pour qu'il se noie encore plus vite. Quel est le devoir d'état du papa dans un cas comme ça? Le devoir d'état du père, c'est d'expliquer à son fiston, attention, les péchés contre nature sont classés dans le catéchisme comme les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Autre exemple. Un monsieur a un fils qui vit tranquillement dans le concubinage. Il est peut-être marié civilement, mais il vit dans le concubinage, il est catholique, il vit dans le concubinage, il n'est pas marié religieusement. Et est-ce que c'est un acte de charité pour ce papa de dire à son fils, écoute, ça ne me plaît pas beaucoup que tu vives comme ça, cependant, le bon Dieu nous aime, le bon Dieu t'aime, tu n'as pas besoin de te marier, c'est très bien comme ça, continue comme ça. Ce père de famille est un assassin, pur et simplement, simplement. C'est un assassin. C'est comme quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans les sables mouvants, et le gars qui passe à côté prend une branche pour appuyer encore un peu plus sur le crâne de la personne qui s'enfonce dans les sables mouvants pour qu'il meure encore un peu plus vite. Vous voyez, ceci, cet exemple un peu direct, qui nous aide à comprendre la différence essentielle qui existe entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Quand Saint Paul nous dit, c'est le Saint-Esprit qui parle, attention. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui sonne, une cloche qui sonne. Entends le bruit, deux secondes après, il n'y a plus de bruit, plus rien. Il parle de la charité surnaturelle. La vraie charité, l'amour du bon Dieu. Aimer Dieu, en suivant ses commandements, et aider le prochain, ceux dont on a la charge, à aimer Dieu, c'est-à-dire aider le prochain, ceux dont vous avez la charge surtout, parce que c'est pas supposé, le bon Dieu ne vous demande pas d'aider tous les gens de la planète, commencez par aider ceux qui sont proches de vous, ceux qui font partie de votre famille, par exemple, aider le prochain proche à vivre en état de grâce. Vous allez me dire, mais d'où vient? Ça, c'est une partie très importante à faire comprendre, j'insiste là-dessus. D'où viennent ces fausses idées? Parce que ces fausses idées, elles sont partout maintenant. Je suis d'écouter ce qu'on nous raconte à Rome, depuis Rome, c'est la charité naturelle à longueur de journée. D'où viennent ces idées? Ça vient d'une erreur, une hérésie philosophique qui est en plein dans Vatican II. Par le mystère de l'incarnation, le Christ s'est uni à tous les hommes. Comme tous les textes de Vatican II, peuvent être interprétés dans un bon sens et interprétés dans un mauvais sens. Comme ça, chacun trouve ça, il trouve ce qu'il veut. Prenez un texte du Concile de Trente, vous ne pouvez pas l'interpréter dans un mauvais sens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Par le mystère de l'incarnation, le Christ est uni à tous les hommes. Eh bien, mes bien chers frères, ça veut dire encore une fois qu'il faut aider les gens à avoir la véritable charité. Attendez, j'ai perdu le fil de mon... Non, ça va revenir après, j'ai perdu le fil de mon idée. Excusez-moi, il faut que ça revienne. Bon, ça reviendra plus tard, excusez-moi, je suis un petit peu, j'ai perdu le fil là. Bon, c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Que si donc je ne fais pas cette distinction entre la charité naturelle et la charité naturelle, voilà, j'ai retrouvé le fil de mon idée, excusez-moi. Les conséquences de ce fait, que je viens de vous expliquer, de cette phrase de Vatican II, c'est que l'état de grâce est naturel à l'homme. Et ça a été expressément enseigné, par exemple, même par le cardinal Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation de la foi, puis après par tous les personnes qui à Rome prétendent, je dis bien prétendent, garder le dépôt de la foi. La grâce fait partie intégrante de la nature humaine. Tous les hommes ont la grâce. Il l'enseigne expressément, il ne se cache même plus. Si tous les hommes ont la grâce, comment la grâce sanctifiante est nécessaire pour aller au ciel? Puisque tous les hommes ont la grâce, Donc tous les hommes se sauvent, ce qu'on appelle la théorie du salut universel. Tous les hommes vont au paradis, alléluia. Sauf bien sûr les traditionalistes. Alors eux, c'est l'enfer. Et c'est comme ça. C'est ça qui est prêché absolument partout maintenant. Et donc, mes bien chers frères, il faut s'accrocher absolument à l'enseignement traditionnel de l'Église. La charité est une vertu surnaturelle. Donc, si j'ai la charité, j'obéis à la loi de Dieu. Si je refuse la loi de Dieu, ce qu'on appelle le péché grave, en refusant la loi de Dieu, je perds la charité, qui est la condition première pour aller au ciel, être en état de grâce le jour de sa mort. Et comme en général, l'arbre tombe du côté où il penche, si j'ai passé ma vie dans le péché mortel, en général, on meurt comme ça. Et donc, on peut avoir fait des tas de choses. Vous avez des tas de gens qui font des tas de choses extraordinaires. Quand j'étais aux États-Unis, à un moment, à Seattle, on a eu un grand... On était à Washington. Il y a eu un grand incendie et un pompier qui est mort de façon héroïque dans l'incendie parce qu'il a essayé de sauver une vieille dame qui était en train de brûler au dernier étage. Il est allé courageusement, il a sauvé la femme, la vieille dame, puis il est mort dans les flammes. Et tous mes paroissiens, « Ah, monsieur l'abbé, c'est extraordinaire, il est au ciel !»« Attendez, j'espère tout mon cœur qu'il est au ciel !» Mais c'est pas parce qu'il a fait son travail de pompier qu'il est mort en sauvant quelqu'un dans les flammes que ça veut dire qu'il est au ciel pour autant. Parce que pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner il y a quelques minutes, s'il vivait tranquillement avec la femme de son prochain, il vivait en adultère. Il a peut-être grillé dans les flammes par charité naturelle pour sauver la femme du prochain. Là, pour sauver, je veux dire, cette vieille dame qui est en train de mourir. Mais il vivait dans le péché. Espérons de tout notre cœur qu'avant de mourir, Dieu lui ait donné la grâce d'un acte de contrition parfaite pour les péchés de sa vie. Très bien. Mais ne changeons pas tout. Regardez, ouvrez les yeux, mes bien chers frères. Pour ceux qui trouvent que je vais un peu fort, que je suis un peu trop sévère, ouvrez les yeux, regardez le monde moderne. Les gens vivent dans le péché mortel jusqu'au cou. Pas tous peut-être, mais pratiquement tous. Pourquoi ? D'où vient cette erreur ? De l'erreur fondamentale de croire qu'à partir du moment où on est homme, on a la grâce sanctifiante en nous, on a l'amitié du bon Dieu en nous, donc on va tous au ciel. C'est pas ce qu'a dit notre Seigneur. Ah, mais notre Seigneur Jésus-Christ est plein de bonté, pardonne toujours. Alors les gens nous donnent toujours l'exemple. Ah, regardez la Samaritaine, que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Ou notre Seigneur Jésus-Christ va la renvoyer en disant allez en paix. Puis ils oublient la petite phrase qui suit, allez en paix et ne péchez plus. Ça, ils oublient complètement. Vous voyez, lorsqu'on entend M. Bergoglio à Rome, dire à propos de l'homosexualité, qui suis-je pour juger ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à tous les sodomites de la terre, continuez, vivez comme ça. Lorsque Postila, à Casablanca, a osé dire, devant des dizaines de milliers de musulmans, catholiques et musulmans, nous avons le même Dieu. Allez dire à un musulman que les catholiques et les musulmans ont le même Dieu. Allez dire aux musulmans que le Dieu des musulmans doit être un Dieu en trois personnes. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez vite être raccourci d'une trentaine de centimètres. À la suite de cette déclaration de Jean-Paul II à Casablanca, catholiques et musulmans, nous avons le même Dieu. Il y a 60 000 catholiques en France qui ont apostasié, qui sont passés à l'islam. Vous vous rendez compte ? Les conséquences, justement, de cette fausse charité. Si un musulman vient me voir à la porte, il dit, mon père, est-ce qu'il peut me donner quelque chose à manger ? Je meurs de faim. Je vais à la cuisine, je prends quelque chose, je lui donne à manger. Bien sûr. Charité naturelle. Mais si un musulman me dit, mon père, il faut reconnaître que le Dieu est mon Dieu à moi, et le tien, c'est le même. Bien sûr que non, c'est pas le même. Puisque vous refusez la Sainte Trinité. Le Dieu des catholiques, c'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu en trois personnes. Donc si on n'adore pas un Dieu trinitaire, si le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu trinitaire, c'est pas le même Dieu. Vous voyez comme toutes ces choses sont importantes. La véritable charité, c'est d'aider le prochain à vivre en état de grâce. Le magnifique texte du pape Léon XIII. justement sur la liberté, le pouvoir de vivre dans le bien, d'aider les gens à pouvoir vivre dans le bien. Alors que le démon, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il complique tellement les choses que les gens autour de nous n'ont plus la possibilité de vivre dans le bien. Ils sont tellement infestés, si vous voulez, par les idées modernes de libéralisme, de liberté, d'égalité, de fraternité, que je dirais, littéralement, ils deviennent presque contraints, forcés de vivre dans le mal. Ils deviennent aveugles. C'est pour ça que l'Église a pris comme évangile du jour l'aveugle. Qu'est-ce que représente cet aveugle? Cet aveugle, il est en train de mendier au bord du chemin, et puis voilà que il entend du bruit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est Jésus de Nazareth. Ah, il se lève. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Chut, vous gênez tout le monde. Taisez-vous qu'on entende parler. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et il répète. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'approche. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Et les pères de l'Église expliquent, cet aveugle, c'est Adam. Adam. qui a perdu la lumière de la grâce sanctifiante. Et les pères expliquent aussi, Adam représente le genre humain tout entier, qui a perdu la lumière de la grâce. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous avons perdu la lumière de la grâce, mes bien chers frères, mes bien chers amis? Quand on a perdu la lumière de la grâce, on appelle au secours. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Vous gênez. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je voie. Seigneur, rendez-moi la grâce sanctifiante. Seigneur, donnez-moi la grâce de savoir regretter mes péchés. Alors là, c'est autre chose. Le bon Dieu est plein de miséricorde pour le pécheur repentant. Le pécheur repentant. Ah, mais autre argument qu'on nous sort tout le temps. Ah, mais le bon Dieu a dit qu'il fallait la paix à tous les hommes. Je n'ai jamais dit ça. Paix à tous les hommes de bonne volonté. Paix à tous les hommes qui cherchent Dieu. Les hommes qui cherchent Dieu, oui, ils peuvent avoir la paix. L'homme qui ne cherche pas Dieu n'aura pas la paix. Alors, mes bien chers frères, passons par, encore une fois, par la très sainte Vierge Marie. Hein, c'est elle, c'est la très sainte Vierge Marie, justement, qui nous est donnée pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là. S'il y avait une qui avait la charité, c'est bien elle. Hein. Et si on avait dit à la Sainte Vierge Marie, votre fils, là, c'est Jésus, là, c'est un homme comme tous les autres, pas de différence. Vous croyez que la Sainte Vierge aurait accepté ça? Elle savait très bien que son fils était Dieu. Elle savait très bien que son fils était l'unique vrai Dieu. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie d'obtenir pour nous, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, il ne faut pas oublier, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses et de garder en notre cœur un grand, grand désir d'avoir toujours la charité. Nous arrivons au début de carême. Le carême, c'est un temps de grâce. Pour cela que l'Église exige, c'est un minimum, au moins que pendant le temps pascal, strictement parlant, c'est le temps qui va depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche après Pâques, dimanche de Quasimodo. Bon, en fait, c'est élargi par les évêques. Et dans beaucoup de diocèses, le temps pascal commence même au dimanche de la Passion, voire même dans certains cas, au premier dimanche de carême. N'oubliez pas que pendant le temps pascal, l'Église exige, au moins à ce temps-là, une bonne confession, une bonne communion. Demandez à la Sainte Vierge Marie de mettre en votre cœur, de mettre en mon cœur aussi, c'est valable pour tout le monde, de mettre dans notre cœur un grand, grand amour de son divin Fils. Pour nous aider à avoir la véritable charité. La véritable charité consiste à aider le prochain à monter vers Dieu. Si dans votre vie vous avez aidé à sauver quelques âmes, Deo gratias. Parfois les gens me disent petite chapelle à Pâques, il y a deux pelés, trois tondus. Eh bien, je suis bien content d'avoir mes deux pelés, trois tondus. D'accord? Et il vaut mieux avoir deux pelés, trois tondus, même qu'il y en a un peu plus. Je suis bien content de les avoir tous. Il vaut mieux avoir quelques personnes et les aider à aller au ciel, plutôt que d'avoir des foules, et même pas les aider à aller au ciel. Allez, regardez autour de vous, mes chers frères. Qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Si j'ai pu aider en tant que prêtre quelques personnes à retrouver l'état de grâce, quelques adultes à trouver la vérité catholique. Quelques adultes à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Quelques adultes à comprendre qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. J'ai pu donner un peu de dévotion mariale aux gens qui viennent ici, Deo gratias. Rendons grâce au bon Dieu. Donc demandons tous ensemble cette grâce de la vertu de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.